les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieuses des ondes et amoureuses de la radio, bonjour. Vous écoutez les ondes buissonnières, ce créneau qu'on aime bien alimenter dans les rythmes de Radio Saint-Fé, ce créneau fait de curiosités et autres sonorités qui nous mettent la puce à l'oreille. Dans les ondes buissonnières du jour, deux sons, deux ambiances. Le deuxième son ne sera pas très long, vous le retrouverez dans à peu près 45 minutes. Il s'agit des vœux de Charlie pour cette nouvelle année. Des vœux qui prennent la forme d'une méditation guidée, pas tout à fait comme on l'attendrait, et c'est ça qui est bon. Le premier son, vous allez l'écouter tout de suite. C'est un documentaire sonore aux sources de la vie, une exploration de ce que peut signifier le verbe allaiter pour des mères en devenir. Ce documentaire, il s'appelle Voie lactée, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est qu'il est signé Clémentine Métainier et Erwan Flageul.
Elle s'allongeait comme ça aussi. Elle se mettait sur ça. Pour donner le sein calypso. Elle s'était allongée comme ça là. Elle tête le sein. Il y a du lait. C'est de lait de calypso. Elle tête comme ça. Elle fait comme ça là. Je me souviens pas. Je crois que c'est salé. Non, c'est salé. C'est pas sucré.
Et j'ai un souvenir très vivace de la joie, de la plénitude, de l'avoir contre soi, de le caresser tout en l'allaitant. C'était une joie du corps en même temps, pas seulement de l'esprit. Voilà, c'était un moment dont je me souviens avec joie. Et voilà, je ne peux pas en dire davantage que ça.
Il y a celles qui le voulaient depuis toujours, celles qui l'ont fait sans réfléchir, celles qui ont été convaincues, celles qui n'ont pas voulu, celles qui ont voulu, mais qui n'ont pas pu, celles qui n'ont pas eu le choix, celles qui n'ont pas eu le droit. Quand je suis tombée enceinte, c'est toute la société qui est entrée dans mon soutien-gorge. Au sujet de l'allaitement, nous, les femmes, sommes blâmées, félicitées, humiliées, encouragées, forcées, entourées, culpabilisées, bref, jugées. Comme allaiter était une envie pour moi, une certitude peut-être, par le fait d'avoir vu ma mère allaiter mes frères, j'ai surtout ressenti le soutien et les encouragements dont j'étais entourée. Le doute ne m'a, je crois, jamais envahi. Mais il y avait de petits sous-entendus au détour de conversation, ou parfois juste un silence quand je disais que j'allaitais. Des mois après avoir terminé cette expérience de l'allaitement, ces petites phrases me sont revenues. Une petite voix me murmurait que non, tout ça n'avait rien d'anodin. L'allaitement était au cœur de quelque chose de bien plus grand que le seul intime. Chaque femme a son expérience particulière de l'allaitement à raconter, faite de paradoxes qui aboutissent à ce profond apprentissage qu'est l'allaitement. Si tant est qu'on prenne le temps de les écouter, ces voies lactées.
Pour moi, c'était, ça me paraissait, c'était assez vague comme comme projet d'allaitement, enfin l'allaitement, parce que je me rendais pas compte de ce que ça impliquait déjà, et puis aucune femme autour de moi n'a allaité. Par contre, toutes les femmes autour de moi m'ont conseillé vivement de le faire. Ma maman ou ma grand-mère qui m'expliquait, enfin qui me disait que c'était le meilleur pour le bébé, quoi. Alors qu'elle n'avait pas eu de grosse expérience d'allaitement. Ma grand-mère, par exemple, n'a jamais allaité. Ma maman a très peu allaité, peut-être pendant un mois, deux mois.
C'est pas complètement vrai quand je dis que je m'y suis jamais intéressée. Je me suis jamais projetée d'un point de vue maternité. Mais moi, j'ai été malade avant d'être enceinte, avec beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, énormément de problèmes digestifs. Et puis la médecine qui bloquait, et la médecin naturopathe qui finalement m'a sorti de ça, la première question qu'elle m'a posée, c'est « Est-ce que vous avez été allaitée ?» Et ça m'avait énormément marquée, et elle m'avait expliqué en fait tout le fonctionnement du microbiote, et le microbiote, il se fait quand on accouche, quand on est plutôt, en passant par la voie basse de la mère, c'est la première colonisation, et après par le lait maternel. Donc j'avais quand même vraiment gardé l'idée qu'allaiter, en fait, c'était quelque chose de très important.
Après, c'était une volonté vraiment personnelle de le faire, de le faire, bien sûr.
Dès le début de la grossesse, j'ai toujours eu l'idée d'allaiter. Je ne me suis pas vraiment posé la question là-dessus. Ce qui a été plus compliqué, c'est qu'il y a un moment où j'ai réalisé qu'en fait, allaiter, ça voulait dire mettre un bébé au sein. Et j'avais une vision très intellectuelle de l'allaitement. Voilà, j'étais partie sur le côté vraiment maladie. Mais mon rapport au corps et de me dire « je vais avoir un bébé qui vient téter mon sein », j'avais une vision qui était quand même très sexuée, on va dire, du sein. Je ne l'avais jamais vu faire et c'était quelque chose qui était un petit peu dérangeant pour moi.
Ce qui me faisait peur, c'était le regard des autres à l'extérieur. Et ça s'est confirmé quand j'ai allaité en public. Les gens, ils sont... Ils sont curieux, ils sont, comment dire, ça les interroge.
Odeur. Fluide.
Fatim, alors voilà, je passe aux messages vocaux. Ça me permet de prendre de tes nouvelles, de vieux voix.
Coucou Clémentine, comment tu vas? Bah écoute, nous ça va bien. Alors, on est bien revenu en Guyane du coup. Et je vais commencer à écouter tes messages et te répondrai au fur et à mesure, je pense.
Caché, succion, peau à peau.
Et je m'étais dit que forcément que ça allait pas le faire, quoi, que je ne serais pas capable d'allaiter, que ce serait beaucoup trop douloureux pour moi. Donc je m'étais en quelque sorte préparée à donner le lait artificiel à mon futur enfant. Quand je suis devenue sage-femme dans ma pratique, j'ai quand même suivi pas mal d'allaitements qui se sont hyper bien déroulés, avec parfois quasiment aucun problème. Voilà, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis dit, ben non, pourquoi tu serais incapable d'allaiter ? Il y a des milliards de femmes qui le font. Tu es, comme toute femme, capable de le faire. C'est vrai qu'on peut avoir des soucis pendant son parcours d'allaitement, ça ne coule pas forcément de source, mais tu en es capable aussi, comme toute autre femme.
En le mettant au sein, j'ai éprouvé une sensation qu'il m'est encore aujourd'hui difficile de décrire.
Tous tes enfants dispersés.
L'impression que j'allais accomplir quelque chose qu'il m'avait toujours fallu accomplir.
De Beata au Mobieyi Mérès.
Des gestes d'une évidence absolue qui auraient été en gestation en moi depuis une éternité. J'étais sereine, sa tête minuscule contre ma poitrine. Je me voyais jouant une scène mille fois vue, enregistrée minutieusement dans quelques recoins de ma mémoire, dans le seul but de la reproduire, ce jour, à mon tour.
Você viu aí o microfone, né?
Alors, la première fois que j'ai allaité Luciano, ça m'a beaucoup marquée parce qu'en fait, j'avais pas la conscience que je pouvais déjà, juste après la naissance, de le prendre dans mes bras et de l'allaiter tout de suite. Et ça m'a beaucoup marquée, les faits que les sages-femmes, elles l'amènent. Tu prends et tu vois cet énorme bébé qui sort de toi et qui t'a même pas... Enfin, c'est assez impressionnant quand même la nature, hein. Et elles te disent « Ouais, vous voulez donner le sein à votre bébé ?» Et ben, moi j'ai dit « Bah, ça sert à quelque chose là, parce que j'ai pas le lait encore. » Elle dit « Non, mais c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que tu vas avoir du lait après. » Du coup, bah, j'ai commencé tout de suite et le bébé, il sait faire ça depuis sa naissance, quoi. Il commence à téter et voilà, c'était comme ça. C'est ce qui m'a plus marquée, en fait, de voir qu'en fait, ça dépend pas de la taille de ton sein. On voit, j'ai vu toutes mes tantes, ma mère non, mais j'ai vu mes tantes allaiter et en fait, c'est normal. C'est vrai que je ne me suis jamais projetée en train d'allaiter, mais moi, je voulais plutôt, pas comme un travail, mais comme une... Ouais, naturellement. Moi, je suis faite pour ça, j'ai du lait, c'est comme ça que je fais nourrir mon enfant, et voilà. Je pense que les questions, elles viennent au fur et à mesure. Même si on te parle à la préparation, et à la maternité aussi, les questions, elles viennent au fur et à mesure. Ah, cette position, ça me fait un peu mal. J'ai un peu engorgé du sein droit ou du sein gauche. Il faut que je donne plus de sein gauche, plus que le sein droit pendant 3 jours. Enfin, et c'est tellement, tellement naturel parce que tu apprends aussi à connaître ton corps. Et bah, tu vois, tu entends les bruits de l'allaitement. Et voilà, tu apprends comme ça.
Mais mon fils n'a pas réussi à prendre mon téton dans sa bouche minuscule. La scène initiale de maternité, à laquelle j'aspirais, se refusait à moi. J'ai tenté de le forcer, maintenant ses lèvres entrouvertes avec mon index tout en poussant le mamelon dans sa bouche, mais aucune succion ne s'enclenchait. Rien. Nous étions comme 2 pièces de puzzle inadéquates qu'une main d'enfant malhabile tente de forcer à s'emboîter.
Coucou ma Clem, je pense fort à toi. Là, Loulou est en train de dormir à côté de nous. On a fait le premier bain, c'était hyper chouette. Et voilà, nous, depuis hier, ça a été un peu compliqué avec Loulou parce qu'il a apparemment un problème de succion. Il arrive à téter, mais en fait, il ne prend pas beaucoup parce que sa manière de téter est compliquée. Enfin, bref, donc moi, ça, en plus, ça me fait des crevasses directes. Meuf, je crois que je vais renoncer. Et je sais que ça paraît fou et tout. Enfin non, ça paraît pas fou. Je t'avais dit, j'essaierais. A priori, j'ai envie de le faire, mais voilà. Et je te dis ça, et je me sens un peu coupable de prendre cette décision. Enfin, il y a aussi toute la question de la culpabilité, il y a l'allaitement et tout. Mais en fait, là, c'est trop prise de tête. Enfin, vraiment, c'est genre avec Pierrick, on supporte pas d'avoir faim. Et hier, il hurlait de pleurs, et du coup, j'arrivais pas à le faire téter parce qu'il était trop en train de hurler, Et du coup, en fait, c'est horrible de voir ton bébé qui a faim. Et enfin, on a du mal à le supporter. Et du coup, enfin là, voilà, donc on a introduit du lait artificiel qu'on passe par une sonde en le faisant téter. Donc en gros, il boit à la fois mon sein et du lait artificiel. On va réussir ça tout à l'heure. J'ai commencé à tirer du lait en me disant, bon, ça allait accélérer la montée de lait et tout. C'est qu'elles m'ont conseillé, les nanas ici, parce que je leur ai dit que j'avais envie d'allaiter, tu vois. Mais en fait, là, je suis en train de me dire, mais à quoi bon? Mais bon, bref, voilà, tout ça pour te dire que j'ai pris, qu'on est en train de prendre cette décision. C'est pas facile parce que tu te dis, ah, je pourrais tenir encore un peu, et je comprends très bien que les gens le fassent et que, enfin, tu vois, je suis très admirative de toutes celles qui le font, vraiment. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de me battre comme une lionne pour ça parce que je me suis battue déjà beaucoup, mon corps a beaucoup donné, mais voilà, c'est ça aussi l'essentiel, c'est qu'il aille bien, quoi. Donc voilà.
Et il y a eu un petit couac vers ces 3 mois. Alors ça, c'est ma version. Je l'explique comme ça. Je ne sais pas si vraiment c'est la cause, mais en tout cas, moi, je me l'explique comme ça. J'étais d'enterrement de vie de jeune fille et j'étais la témoin. Donc, pour moi, c'était un choix impossible à faire entre être présente à l'EVJF et arrêter l'allaitement. Je ne pouvais pas. Donc, je voulais à tout prix pouvoir combiner les deux. Et j'avais pris rendez-vous avec ma consultante en lactation pour savoir ce que je devais mettre en place. Donc, on s'était dit un tirage vraiment, si possible, toutes les 2 heures, mais sinon, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, dans la nuit, etc. Le plus possible, en fait. De toute façon, j'avais encore le tire-lait, donc je l'avais en ma possession. C'était vraiment pour avoir une stratégie sur quoi mettre en place et... en sachant que du coup, il n'a pas été avec moi pendant 20 heures, à peu près, ouais, c'est ça. J'avais réussi à caler une tétée le matin avant la première activité, et après on était en déplacement, donc compliqué. Sauf que c'est pas aussi simple que ça quand on a un tire-lait qu'on doit brancher à une prise électrique pour tirer son lait. J'étais pas au courant de tous ces magnifiques tire-laits qui existent, qu'on n'a pas besoin de brancher... Moi, qui fonctionne tout seul, quoi. Donc, j'ai pas pu le faire aussi souvent que j'aurais pu et dû. Ce qui fait que quand je suis rentrée de ce week-end, qu'on a repris le sein, en fait, de nouveau, il s'est mis à s'énerver sur le sein, à le lâcher, à demander beaucoup plus fréquemment, et puis à pleurer. Parce que du coup, comme il était plus... Ça remontait plus, donc ça le brûlait plus. Donc, il avait besoin d'être apaisé. Et donc, on était revenu dans ce cercle vicieux un peu infernal, où de nouveau, il ne dormait pas, c'est-à-dire un réveil toutes les heures la nuit. Donc, moi, je ne dormais pas non plus. Et à partir de ce moment-là, de voir mes pleurs, ma fatigue, et le fait que c'était compliqué, j'ai eu beaucoup, de la part de mon entourage, de l'incompréhension. Qui me demandait en fait tout simplement pourquoi est-ce que j'arrêtais pas d'allaiter et pourquoi je passais pas au biberon. Je pense qu'ils comprenaient pas l'envie que j'avais derrière d'allaiter. Je l'explique pas non plus, mais pour moi, je voulais en fait continuer parce que c'était une fusion très très belle de l'avoir au sein, de le voir déglutir. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette vision-là et j'étais pas prête encore à ce moment-là d'arrêter. Enfin voilà, je n'avais pas envie. Mais entre tout ça, le manque de sommeil et cette pression, vraiment, en fait, j'ai cédé. C'est-à-dire que j'ai cédé à tout en même temps. Et on a tout fait. C'est-à-dire, on a donné l'Inexium, on est passé au biberon et on l'a diversifié. Donc là, on a été versé 3 mois et demi, 4 mois. Et j'en ai pleuré vraiment pendant des mois. Enfin, vraiment, c'était un deuil qu'il fallait que je fasse et que je n'arrivais pas à faire. Je m'en suis voulu, en fait, de ne pas avoir la force à l'époque de retenter, en fait. Ça, ça a été vraiment très difficile.
Mais est-ce que tu as pu concevoir à un moment donné, ou est-ce qu'on peut concevoir que c'est possible que ça ne marche pas? Que tout simplement, ça veut pas, pour toi, pour ce bébé, c'est ne pas le voir justement comme une défaite, mm-hmm. comme un échec.
Sur le moment, c'était impossible pour moi de le voir comme ça. Parce que pour moi, je n'avais pas tout fait ce qui était en mon pouvoir pour mon enfant. Alors, je ne vois pas du tout le lait infantile comme, comme quelque chose de négatif et d'horrible et qui n'est pas assez suffisant en termes de nutrition pour l'enfant, pas du tout. Mais je voulais vraiment aller jusqu'au bout et arrêter par choix, mais par choix parce que bah, voilà, j'avais plus envie. À ce moment-là, j'étais sereine dans mon allaitement. Alors que là, non. Je pense que c'est effectivement possible de se dire que c'est OK d'arrêter un allaitement. Mais à ce moment-là, j'en étais pas capable. Maintenant, oui, avec le recul, avec tout le travail que j'ai fait dessus, je me dis que j'ai quand même tenu 4 mois, malgré les difficultés, que j'ai quand même tout donné et que j'étais juste voilà, trop épuisée. Quoi.
S'amuser. C'est à toi après?
Coucou toi, les choses ont un peu évolué. Enfin, quand je t'ai parlé, j'étais un peu en mode bon, j'arrête, c'est trop dur et tout machin. Et en fait, on a rencontré une auxiliaire à la maternité qui nous a dit un peu d'insister et qui a été assez cool parce qu'elle m'a dit de prendre un tire-lait, de me tirer mon lait. Et en fait, ce qu'on a fait avec Pied, c'est qu'on lui a donné le lait avec un système de dalle. Je sais pas si tu vois, c'est genre une sorte de paille, enfin de sonde que tu mets dans une sorte, enfin là où il y a ton lait, quoi, dans le contenant dans lequel il y a ton lait. Et en fait, tu le mets dans la bouche de ton petit en le faisant téter avec genre ton doigt, par exemple, ton petit doigt. Du coup, il perd pas le réflexe de succion. Tu passes pas au biberon, donc ça l'habitue pas au biberon. Et il boit ton lait, quoi. Et là, aujourd'hui, on allait voir une sage-femme. Et en fait, elle nous a aidé à d'autres positions. Genre, en gros, moi, complètement allongée, le bébé sur moi. Et en fait, ça a marché. Incroyable. Donc, c'était hyper émouvant. Bon, après, elle était là et tout. Et là, on vient de le refaire, tous les deux avec Kirk. Et bref, et du coup, on a réussi là, tous les deux. Donc là, Elon est en train de dormir sur mon bidou après une demi-heure de tétée. Et je peux te dire que c'est une victoire incroyable. Voilà, donc je voulais te tenir un peu au courant. Mais je trouve ça ouf à quel point c'est difficile, à quel point on n'en parle pas. Parce que tu vois, par exemple, j'ai des coulées de lait maintenant, tu vois. Et je savais pas, enfin c'est con, mais je savais pas qu'on le lait coulait comme ça tout seul. Donc bref, du coup, il faut que je m'informe là-dessus. Mais on ne dit pas trop comment c'est difficile, en fait, et comment tous les professionnels qu'on voit nous disent « Bah oui, ça peut prendre 3 à 6 semaines pour se caler, c'est vraiment pas grave, il faut vraiment être patient. » Mais c'est vrai que c'est quand même une petite lutte. Voilà.
Et donc, lorsque votre bébé et vous-même êtes prêts, prenez plusieurs profondes respirations. Chaque inspiration d'air apporte un sentiment de confort et de calme, vous permettant de vous sentir encore plus détendu, encore plus à l'aise.
La Madone inversée. Meilleur contrôle et bonne visibilité, elle est parfaite pour débuter. Tenez bébé avec le bras opposé au sein utilisé, votre paume placée sous la nuque. La biologique nurturing.
Ça se dit comme ça, nurturing.
Ou BN pour les intimes. Physiologique à souhait, elle est idéale pour les nouveau-nés. Placez bébé sur votre ventre ou à travers votre poitrine et enveloppez le de votre bras.
La madone.
Il doit être totalement collé à
basique, elle se pratique sur tous ses pieds.
Facilement partout.
Elle aidera à bien se positionner.
Bébé est couché sur le côté.
L'allonger. Facile
face
à mettre.
Sa tête est posée sur votre avant-bras.
Esthétique.
Votre mamelon.
Clairement votre de orgueil du côté.
Le ballon de rugby à Cali.
Elle est idéale en cas de césarienne car il n'y a
bébé
pas
bébé aligné en face de votre mamelon.
Quand bébé
est allongé, facile à mettre,
la bio
est ralentie,
ne vous tordez pas
posant
du même mètre
car bébé
imagine que chaque expiration permet d'évacuer facilement la tension, le stress ou l'anxiété de votre corps, vous laissant encore plus détendu et à l'aise qu'avant. 3 2 1
J'oublie le reste.
Au début, c'est difficile pour moi. Au début, quand j'étais déjà à l'hôpital, juste après l'accouchement, c'est très très difficile, ça me fait mal. Et des fois, je pensais de donner pas le sein. Mais j'étais obligée. J'ai beaucoup de lait, mais ça fait mal. Même quand j'ai pris ma fille, j'ai peur comment je fais avec mon bébé. Parce qu'en fait, je suis seule ici. Heureusement, il y a les sages-femmes, il y a l'infirmière. Et même quand je rentrais à la maison, les sages-femmes passaient deux fois à la maison pour voir est-ce que ça marche bien ou tout, comme ça. Elle m'aide beaucoup en fait. Je suis tombée enceinte ici en France et après 9 mois j'ai accouché. Oui, pour moi c'est un peu compliqué parce que l'accompagnement de la famille, pour moi c'est important. En fait, je suis en Tunisie. Ici, une fille elle va accoucher, sa maman, ses soeurs, son belle-fille, tout ça, ils sont avec elle. Ils sont aidés, elle est, on dirait princesse, elle ne bouge pas, elle va occuper son bébé. Ils sont aidés pour allaiter aussi, il faut qu'elle allaite son bébé, c'est un obligatoire. Ils ont fait tous les moyens comme ça, la maman elle aime faire ça. Par exemple, préparer des repas pour elle qu'elle aime bien, ils sont amènent les cadeaux. Regardez comment il faut que tu allaites ton bébé, comme ça en fait. Même si elle, au début, elle peur ou bien de faire ça, après elle n'est pas tout seule en fait. Mais la sœur de mon mari, elle venait après une semaine de l'accouchement et elle restait à côté de moi aussi en fait. Mon mari et elle regardaient mon sein, elle me dit faire comme ça, fais comme ça. On dirait, à ma cas, il m'aidait pour allaiter ma fille. En fait, dans cette période, l'essentiel, je me sens pas mal, c'est tout.
Jadis, on installait la nouvelle accouchée sur un lit de laiton.
Lait noir.
À la tête du lit, on nouait des colifichets en verre contre le mauvais œil.
De Elif Shafak.
Des sachets de cumin noir et de part en part, une ficelle garnie de clochettes. Mère, sœur, tante, nounou, belle-mère, au moins 2 femmes âgées se tenaient impérativement à son chevet. Lorsque les mauvais djinns venaient s'en prendre à la nouvelle accouchée, ils tournoyaient dans la chambre et se suspendaient à la corde à clochettes. Celle-ci se mettait alors à tinter. Les graines de cumin se répandaient sur le sol. Comprenant que les djinns avaient lancé leur assaut, les vieilles femmes accouraient aussitôt et tirait sur l'autre bout de la corde. La nouvelle accouchée était ballottée, tiraillée entre les deux, comme un pantin sans volonté. Ce combat durait 40 jours. Peu à peu, Li Qin abandonnait la partie. C'est seulement alors que la nouvelle accouchée sortait du purgatoire. Et si jamais c'était les djinns accrochés à la corde du lit qui remportaient la bataille? Et si jamais la femme ne parvenait pas à sortir de quarantaine? Que se passait-il? Son lait pourrissait. D'abord, son lait épaississait et se mettait à cailler. Puis, sa blancheur s'altérait. Il noircissait. Du lait noir coulait des seins de la nouvelle accouchée. Et ce n'est pas seulement son lait, mais son cœur qui se putréfiait. Si grande était l'épouvante face à cette éventualité, que les anciennes s'accrochaient de toute leur force à la corde de l'accouchée, pour que les djinns n'emportent pas une nouvelle femme. Fortes de ce savoir immémorial, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos sages-femmes se devaient de le transmettre, enrichis de leur expérience d'une génération à l'autre. Conscientes de ce devoir, les femmes veillaient à transmettre tout ce qu'elles savaient sur la grossesse, l'accouchement et la maternité à leurs filles,
bien calé, là.
Leurs petites-filles et aux petites-filles de leurs petites-filles.
C'est pas mal. Ce petit loulou.
Pour moi, c'est quelque chose dont je me souviens avec joie. Et je peux dire que quand j'ai vu une de mes petites filles qui vient d'avoir un bébé et qui l'allaitait, c'était très émouvant pour moi. Oui.
Ah bon. Tu peux voilà. Dire quand je t'ai vu. Faisons ça parce qu'on est ensemble.
Oui.
Et comme je te dis, je pense que tu feras partie. T'es ma grand-mère. On
oui,
le sort,
d'accord.
On
donc
le
je peux. Voilà.
Peux, là, on peut se discuter, quoi.
Voilà. Oui, d'ailleurs, cette petite fille dont je vous parle, elle est en face de moi. C'est Clémentine. Et pour. Je peux dire que quand je l'ai vue, quand je t'ai vue, elle était Pablo. Et bien, pour moi, c'était comme une transmission. Mais quand je parle de transmission, là, c'était vraiment cette petite fille de toi dont je m'étais occupée et quand tu étais toute petite. Et oui, la transmission par le corps, par quelque chose de très important, puisque c'est la nourriture de l'enfant. Mais pour moi, c'est cette transmission, oui, je la ressentais dans mon corps.
Où il est accroché au sein.
Tu la connais bien, maman, elle écoutait souvent quand elle était enceinte, c'est toi. Oui.
La maman, on a notre première poitrine, c'est le moment où le monde découvre qu'on est sexué. Dans une société où le corps de la femme est hyper sexué. Donc la petite fille, parce que dans notre tête, on n'est pas forcément prête à avoir des rapports, hein. Mais la petite fille, elle a le monde qui change de regard sur elle juste parce qu'elle a de la poitrine. Et ça peut être extrêmement violent. Et si t'as vécu ça de manière violente et qu'en plus, des regards dans le décolleté, on a tous eu, etc., ben, tu peux ancrer ça et de fait... Quand à la maternité, on dit « tu veux allaiter », en fait, lâchez-moi les seins, quoi. C'est mort. Et je peux le comprendre, il y a des femmes qui sont pas prêtes à ça, quoi.
je suis plus dans une idée de permettre aux femmes de se réapproprier leur corps et de le vivre et de pouvoir en faire vraiment ce qu'elles veulent, plutôt que de permettre aux femmes d'être mères. Et au contraire, on ne devrait pas être que mère. On devrait être femme. Et une femme, elle peut être mère, elle peut être travailleuse, elle peut être ce qu'elle veut. Pour moi, c'est le droit d'être qui on veut et ce qu'on veut. Et ce qui m'a vraiment beaucoup touchée et qui aujourd'hui continue de me toucher et me révolte, c'est quand même en France, à la maternité, 70% des femmes allaitent. Et je crois qu'elles sont déjà plus que 50 à la sortie et 25 trois mois après. Donc ces femmes-là, est-ce qu'elles ont arrêté parce qu'en fait, elles ont allaité sous pression et qu'elles n'en avaient pas vraiment envie? Ou est-ce qu'elles ont arrêté parce que l'environnement fait qu'elles n'ont pas pu réussir leur projet? Et ça, je trouve ça inadmissible, surtout que ça détruit. Et là, on vient même casser la confiance en soi, quoi, de la femme. Donc il y a vraiment un combat féministe pour moi, oui, derrière l'allaitement.
Aurélien va avoir 18 ans là, dans 3 semaines. Comme quoi, finalement, d'être allaité 3 ans, il va bien.
Il va bien, c'est vrai. Ouais.
Malgré tout ce qu'on nous avait prédit.
Il n'est pas bizarre,
c'est bah, bon. Si, il est un peu bizarre, il fait art du spectacle à la femme quand même.
Ah,
donc tu vois, il va être intermittent, on peut dire que ça vient de l'allaitement. Mais non, on nous avait prévu l'horreur, il va bien. Il est hyper épanoui.
Ah, parce qu'on nous a dit que ça serait. De toute façon, il fallait que je coupe le cordon. De toute façon, elle allaitait si longtemps. Est-ce que j'allais l'allaiter le jour du bac, enfin... Non, c'était hyper mal.
Des remarques.
Ah ouais. Ouais. De l'endormir au sein, il ne saurait jamais s'endormir tout seul. Conclusion, il dort très bien. N'importe où, par terre, à une soirée. Enfin, un ado, quoi. Donc, ouais. Et puis.
Puis là, je trouve le Covid, malgré tout, ça fait un peu l'affaire de l'allaitement.
Ouais. Ah bah ouais, c'est clair. Non mais c'est vrai, il y a vachement plus d'allaitement.
Entre des
on
mamans.
Leur fout la paix en fait.
Déjà, mais aussi, y en a beaucoup qui pour le premier ne voulaient pas allaiter, mais pour le deuxième ou le troisième, elles se sont dit quand même pour le système immunitaire, c'est beaucoup pour ça.
Ah ouais.
Alors après, il y a celles qui sont quand même motivées et puis celles qui le font pour bien faire. Et là, c'est pas forcément des allaitements qui tiennent, mais bon, après au moins elles ont essayé. Et puis avec la reprise du travail, ce qui est génial, c'est que les mamans sont en télétravail X jours par semaine et ça change tout. Elles peuvent tirer leur lait quand elles veulent. J'en ai même une qui me disait, je cale ma caméra comme il faut, et en même temps, je tire mon lait. Personne ne voit rien, n'entend rien. Et donc, c'est génial. Donc, ce qui fait que moi, j'ai remarqué, j'ai l'impression que les allaitements durent peut-être un peu plus. Donc, bon. Mais je pense que le coup du télétravail, ça aide bien, parce que tu sais que tu vas être à la maison, que ça va être plus cool de pouvoir tirer ton lait. T'as pas de contraintes, t'as pas de regard, t'as pas de... Même si dans les entreprises, c'est quand même assez bienveillant et on te fiche la paix, mais bon.
Et puis, au fil du temps, donc j'ai eu la chance d'être un petit peu à la maison au début. Donc j'ai pu allaiter vraiment sereinement. Donc ça, c'était vraiment appréciable. Et puis, quand j'ai repris le travail, ça s'est compliqué. Parce que je suis assistante d'éducation dans un collège. Et que, déjà, j'avais pas vraiment de pièces tirer mon lait, pardon, tranquillement. Et puis, nos journées sont assez... saccadées. Il y a toujours des événements ponctuels qui se produisent, donc je ne pouvais jamais savoir si au moment où je devais aller tirer mon lait, j'allais être vraiment disponible pour le faire. En plus de ça, c'est une sacrée organisation au niveau de la logistique. Je partais avec mon sac de 20 litres qui était plein. J'amenais ma glacière avec mes pains de glace. Donc voilà, donc ça a été assez pesant parce que tous les soirs il fallait préparer le matériel et puis le transporter tous les jours quoi. Alors au début j'en ai parlé à mon CPE, après j'en ai parlé à mes collègues et c'est ce regard aussi de la part de mes collègues qui était un peu comment dire. Je me suis sentie jugée. Enfin, pas moi personnellement, mais les femmes qui allaitent. Mais c'était des réflexions du genre, moi je tirerais pas mon lait parce que j'ai pas envie de me sentir comme une vache contrée, quoi. Donc.
Ça t'a atteint ?
Un peu, ouais. Parce que moi je m'identifiais pas du tout à une vache, déjà.
Donc il y avait pas d'autres femmes qu'elle était, en tout cas à ce moment-là ?
Si, un professeur. Mais qui. Pareil, j'ai entendu des jugements sur ça. Enfin, sur ça, le fait qu'elle tirait son lait en salle des professeurs, par exemple. Qu'elle stockait son lait dans le frigo de la salle des profs. Et que, ben, il faudrait pas se tromper entre prendre une bouteille d'eau et son biberon de lait. Mais ouais, ça m'a quand même un petit peu blessée. Parce que je le faisais pour moi, c'est sûr. Et pour mon bébé, c'était évident. Mais de savoir qu'il y avait des gens qui pouvaient penser ce genre de choses, je trouve ça... Ouais, c'est blessant.
J'ai une histoire inverse à l'allaitement. C'est-à-dire que, avec ma petite puce au sein, on était chez la grand-mère de mon conjoint. Et du coup, qui me dit « Ah, du coup, tu l'allaites ?» Moi, de mon temps, alors ça l'a un peu formulé, ça se faisait pas trop. Moi, de mon temps, ce qu'on faisait, c'est quand un bébé naissait, on choisissait une vache et c'était toujours le lait de la même vache qui devait le nourrir. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est le début de mes recherches de me dire, mais en fait, ça s'est perdu depuis combien de temps, l'allaitement ? Parce qu'on est sur la grand-mère de mon conjoint.
Si, c'est pas vrai. Je me suis vachement... Parce que la première fois, j'étais en résidence artistique auprès des agriculteurs en Maurienne. Et du coup, au milieu des troupeaux de vaches et tout ça, je me suis sentie hyper à ma place. Des fois, je leur disais, on est pareil, quoi. Mais je le dis en rigolant, mais c'est vrai, en fait. Je me suis sentie vraiment dans le même truc, quoi. Il y avait plein de brebis. Avant, c'était drôle, j'ai assisté à la naissance d'une brebis, tu vois, tout le troupeau qui s'écarte d'un coup pour laisser la place à celle qui va accoucher et qui, elle abandonne son petit, c'en est une autre qui vient prendre le relais. Et tu vois, tu vois les premiers trucs d'allaitement, je me suis dit, ouais, il y a un vrai truc de communauté animale, quoi. Un truc qui est vraiment... Et puis on a enregistré à ce moment-là, on faisait de la création sonore aussi, j'ai enregistré les tireuses à lait des vaches. Et c'était pas loin du tire-lait là, que j'ai encore, tu vois, je l'utilise plus aujourd'hui, mais t'es pas loin de ça, quoi. Donc il y a vraiment eu ce sentiment de... Ouais, on n'est pas différent, quoi, en fait, de ça. Mais ça m'a pas dérangé, tu vois. La première fois, j'avais pas osé goûter. La deuxième fois, j'ai goûté, tu vois, en me disant, mais en même temps, c'est quoi de mon con de pas oser goûter, enfin... Voilà. Donc je l'ai fait, tu vois, c'était... C'est bon. Enfin, voilà, ça change en plus tous les jours de goût.
Je sais pas, je me souviens pas. Je crois que c'est salé. Non, c'est salé. Pas sucré. Je crois que c'est salé. Non, c'est salé. Pas sucré. Je crois que c'est salé. Non, c'est salé. Pas sucré. Je crois que c'est salé. Non, c'est salé. Pas sucré. Je crois que c'est salé. Non, c'est salé. Pas sucré. Je crois que c'est salé. Non, c'est salé. Pas sucré. Je crois que c'est salé.
Non, c'est salé. Et pas sucré. Salé, le salé, salé, pas salé, 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 pas salé, 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 pas salé, 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 pas salé, salé.
Je crois que c'est salé. Ouais, c'est salé. Et pas sucré.
La 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 la. La 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 la, la 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 la, c'est Gugus qui fait la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mon papa ne veut pas que je danse, que je danse. Mon papa ne veut pas que je danse la polka. Moi je dis que je danse, que je danse. Moi je dis que je danse la polka. Tu t'en souviens de celui-là aussi? Bon, ça c'est plus en allaitant là, hein, c'est plus tard. Finalement, tu vois la période de l'allaitement, eh bien même quand on a 60 ans de plus, on s'en souvient, c'est quelque chose qui reste dans notre corps. Le fait d'avoir allaité, je pense que ça m'a aidé. Je m'en suis pas rendu compte en allaitant, mais après le fait du rapport à mon corps, je pense que ça a été très important pour moi, tu vois, pour la suite.
Je pense qu'il s'en souviendra, parce qu'il en parle beaucoup. Lui, il adore aussi regarder les animaux. Il a plein de documentaires animaliers là, en livre. Et souvent, il me fait la remarque. Il fait « Ah, t'as vu, elle allaite les petits aussi. Elle lui donne son lait. Et comment ils font les poissons? Est-ce qu'ils allaitent ?» Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Avec les voix d'Iva Noé, Marguerite, Eugénie, Flora, Fatime, Anne-Lise, Charlie, Amandine, Sabia, Marielle et Anna. Merci enfin à Calypso, Pablo, Malo, Luciano et Louan pour leur babillage. Un documentaire de Clémentine Métainier et Erwan Flagel. Vous écoutez toujours les ondes buissonnières sur les bonnes ondes de Radio Saint-Fé. Et après l'écoute du documentaire Voie lactée, je vous propose de terminer l'émission en gardant la tête dans le cosmos, à l'écoute des vœux de Charlie pour cette année 2023.
Bonjour et bienvenue dans cette méditation de pleine confiance dans laquelle je vous guiderai en pleine conscience. Non, pardon. Dans cette méditation de pleine conscience dans laquelle je vous guiderai en pleine confiance. Voilà. Cette méditation est une porte d'entrée énergétique très puissante pour commencer cette nouvelle année 2023 sur une fréquence vibratoire de 396 Hz qui vous permettra de guérir vos mémoires akashiques en illuminant votre 13e chakra au service de votre chemin de vie. Si vous n'avez pas compris cette phrase, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas encore assez éveillé, mais cette méditation guidée par moi-même va vous y aider. À présent, prenez le temps de vous installer confortablement. Mettez-vous en position assise ou allongée et détendez-vous, tranquillou, bilou. Soyez calme, fermez les yeux, détendez votre sphincter et relâchez vos sourcils.
le sourcil droit d'abord, puis le gauche. Voilà, super. Commencez par prendre conscience de votre respiration. Si vous n'y arrivez pas, réessayez. Si vous n'y arrivez toujours pas, ayez confiance dans le fait que vous allez y arriver. Voilà, vous y êtes arrivé. Super. Maintenant, videz votre esprit de toutes les mauvaises nouvelles de la journée. Votre cuillère qui est tombée dans votre bol de choc à pic au petit déjeuner. La fonte du permafrost. Vos écouteurs qui se sont encore emmêlés dans votre poche. La sixième extinction de masse. Vous allez entraîner votre esprit à accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que de ruminer le passé ou de vous angoisser pour le futur. Pour cela, répétez dans votre tête ce mantra qui ouvre l'année 2023.
Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure, il y a un an. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Qui aurait pu prédire la crise climatique? Qui aurait pu prédire la crise climatique? Qui aurait pu prédire la crise climatique? De nouveau, respirez lentement, en prenant des inspirations profondes et détendez-vous. Nous allons à présent faire un exercice pour nous libérer de toutes les mauvaises énergies de 2022. Et entrez dans 2023 en douceur. Avec votre respiration, ressentez toute la conscience astrale du chaos qui traverse le monde et transformez-la en amour universel. Posez votre conscience sur votre conduit auditif et rappelez-vous de toutes ces mauvaises nouvelles que vous avez entendues chaque jour de l'année qui vient de s'écouler. Inspirez par l'oreille droite votre éco-anxiété, les 49.3, Darmanin et les violences policières. Expirez par l'oreille gauche un torrent de libellules pailletées. Inspirez par l'oreille droite la guerre en Ukraine, les 146 féminicides conjugaux, la Coupe du Monde au Qatar. Expirez par l'oreille gauche l'odeur d'une tartine de beurre salé au miel en compagnie d'un être qui vous est cher. Faites une demande à vos guides, à vos anges gardiens, à l'univers, à Mbappé, à Rihanna, peu importe vos croyances. Mais demandez maintenant à vous débarrasser de toutes les énergies négatives de 2022 pour que votre corps énergétique entre purifié en 2023. Demandez l'autorisation de pouvoir vous rapprocher de la lumière et d'augmenter votre fréquence vibratoire afin d'attirer les bonnes énergies, d'amener du bonheur, de l'amour, du bien-être et de détruire le capitalisme et le patriarcat. Notre méditation prend fin. Prenez le temps de revenir à vous et de remercier ce moment. Peut-être qu'à présent, vous vous sentez plus détendu. Quand les cloches vont sonner, je vais vous inviter, quand ce sera juste pour vous bien sûr, à ouvrir les yeux, à vous étirer à votre rythme, à savourer les ressentis de votre nouveau corps astral de 2023. Ainsi s'achève cette méditation. Si cette bulle de sérénité vous a détendu, n'hésitez pas à liker et partager pour me faire remonter dans les algos. Vous pouvez également m'envoyer un petit dana sous forme de virement bancaire sur ma cagnotte Litchi, car rappelez-vous la loi du karma. Tout ce que vous donnez à l'univers, l'univers vous le rendra. Namasté et gratitude infinie.
Les ondes buissonnières, c'est fini pour aujourd'hui sur Radio Saint-Ferréol. Vous venez d'écouter Les Vœux de Charlie, qui était précédé par le documentaire Voie lactée, signé Clémentine Métainier et Erwan Flageol. Si vous voulez retrouver ces programmes, cette émission, rendez-vous sur le site de la radio www.radiosaintfé.com, rubrique toutes les émissions et les ondes buissonnières. Et on se retrouve pour de nouvelles pépites sonores la semaine prochaine, même heure et même fréquence évidemment.
Yeah. les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.